Troisième jour, le matin. L'affaire Joyce Carlyle. Chapitre 14. Angel Falls. Celui qui craint les eaux, qu'il demeure au rivage. Pierre de Marbeuf. 1. La nuit avait été courte. Fragmenté, anxieux, chahuté, mon sommeil ne s'était pas prolongé au-delà de 6 heures du matin. Une fois levé, après une douche qui m'avait redonné un peu de tonus, j'avais refermé la porte coulissante séparant la chambre, dans laquelle mon fils continuait à dormir, d'un petit salon avec un bow window qui dominait les eaux encore sombres de l'Hudson. Là, je m'étais préparé un expresso, avant d'allumer mon ordinateur portable et de consulter mon téléphone. Karadec avait cherché à me joindre et m'avait laissé un message. J'essayais de le rappeler, mais tombé sur son répondeur. Merde! Pourquoi Marc ne répondait-il pas? J'étais davantage contrarié que véritablement inquiet. Karadec n'était pas un accro du portable. Tel que je le connaissais, il était même capable d'avoir oublié son chargeur à Paris en partant enquêter dans l'est de la France. J'avalai d'un trait le reste de mon café avec un doliprane. J'avais des bourdonnements dans les oreilles, comme si les dizaines de questions qui m'avaient tourmenté dans mon sommeil rebondissaient contre les parois de mon crâne. Assis devant mon écran, dans la lumière du petit matin, j'espérais qu'Internet m'aiderait à déchiffrer le terrain. Google. Première recherche. Mei Soo Yoon, la détective du NYPD qui avait mené l'enquête sur la mort de Joyce. En quelques clics, je compris que la flic n'en était plus une. Mei avait quitté la police au début des années 2010. Elle travaillait à présent comme porte-parole du Transparency Project, une puissante organisation à but non lucratif connue pour son programme d'aide juridique destiné à soutenir les victimes d'erreurs judiciaires. Sur le site web de Transparency, je trouvais facilement son adresse mail et lui envoyais un courriel lui demandant un rendez-vous. Pour rafraîchir la mémoire de l'ex-flic, je lui rappelais en quelques mots les grandes lignes de l'affaire Joyce Carlyle dont elle s'était occupée 9 ans plus tôt. Je n'escomptais pas une réponse rapide. Le plus probable était même qu'elle ne me réponde pas. Mais il était de mon devoir de commencer par là. Deuxième recherche. New York Herald. Le journal pour lequel travaillait Florence Gallo, la journaliste qui avait vraisemblablement contacté Joyce quelques jours après l'enlèvement de Claire. Et deuxième surprise. Le quotidien n'existait plus. Victime de la crise de la presse, le New York Herald avait disparu des kiosques en 2009. Après avoir connu son âge d'or dans les années 1970, le journal avait commencé à accumuler des dettes. Malgré plusieurs restructurations, il n'avait pas survécu aux difficultés du marché publicitaire et la crise financière avait fini par avoir sa peau. En y regardant de plus près, le site web du quotidien était néanmoins toujours en service, permettant de fureter dans les archives mais ne proposant plus de nouveaux articles. Alan Bridges, l'ancien rédacteur en chef, ainsi qu'une petite partie des journalistes, avait depuis fondé un site d'info, Pure Player. Financé par abonnement, le Winter Sun était une sorte de Mediapart américain spécialisé dans le journalisme politique d'investigation. En y réfléchissant mieux, je me souvins d'avoir déjà entendu parler d'Alan Bridges et de son site lorsque, dans le sillage de l'affaire Snowden, le Winter Sun avait publié des documents fournis par d'autres lanceurs d'alerte concernant la surveillance électronique de masse orchestrée par la NSA. Je tapai Florence Gallo dans le moteur de recherche du Herald pour voir quelles enquêtes elle avait menées depuis les articles réunis par Joyce. Le résultat le plus récent me glaça. La journaliste était morte. 2.
Ce n'est pas croyable.
Je me tortillais sur ma chaise. Les archives en ligne du Herald faisaient remonter l'annonce du décès de Florence sous la forme d'un texte court paru dans l'édition du 27 juin 2005. C'est avec un profond chagrin que nous vous faisons part du décès brutal de notre amie et consœur, Florence Gallo, des suites d'un accident de base jump. Florence avait 29 ans. Elle vivait par et pour son métier. Nous n'oublierons jamais son enthousiasme, sa bonne humeur, son caractère bien trempé, son intuition et sa détermination qui faisaient d'elle une femme et une journaliste exceptionnelle. Tous les membres de notre rédaction sont submergés de douleur. Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille et à ceux à qui elle était chère. L'article était illustré d'une photo étonnante. Blondeur solaire et jeunesse triomphante, cuissardes et shorts de cuir, Florence prenait la pose sur sa moto. Un décalque presque parfait de la Brigitte Bardot de la fin des années 1960, période Harley Davidson et Roger Vivier. Moi aussi, j'étais sous le choc. Alors que je pensais avoir enfin trouvé quelqu'un qui pourrait m'aider de manière décisive, voilà que j'apprenais sa mort. Je me refis un café pendant que, dans mon esprit, les interrogations se bousculaient. Je me rassis devant l'écran et ouvris en même temps plusieurs fenêtres dans le navigateur pour pouvoir mener des recherches en parallèle. Je savais que l'information était là, à portée de clic. Première étape, je collectais suffisamment de renseignements pour esquisser une biographie de la journaliste. De nationalité suisse, Florence était tombée très tôt dans la marmite de l'info. Son père était reporter sportif au Matin, et sa mère avait longtemps animé une émission culturelle sur les ondes de la RTS. Elle avait fait ses études secondaires à Genève, puis à 19 ans, elle avait enchaîné des stages dans différentes rédactions, dont celle de 24 heures, le quotidien du canton de Vaud. En parallèle, elle avait poursuivi des études au CRFJ, le Centre roman de formation des journalistes. En 2002, elle avait travaillé un an à Londres pour la chaîne économique Bloomberg TV. Puis elle avait traversé l'Atlantique et s'était installée à New York, où elle avait d'abord rédigé des articles pour France Amérique, le journal francophone des États-Unis, avant d'intégrer la rédaction du New York Herald en 2004. Deuxième fenêtre, Google Images. Toutes les photos de Florence disponibles en ligne montraient une jolie fille, sportive, saine, toujours en mouvement, toujours le sourire aux lèvres. Une beauté accessible sans arrogance, qui inspirait la sympathie. Une jeune femme un peu à l'image des articles qu'elle écrivait. J'en téléchargeais plusieurs dizaines, beaucoup de portraits, des sujets de fond, et des enquêtes sur la vie politique, les questions sociales, les problèmes de société. Pas de gras, le mot juste. Sa prose était fluide et équilibrée. Bienveillante sans être complaisante. Sans concession, mais sans cynisme. Mis bout à bout, ses papiers brossaient le portrait d'un New York multiforme, complexe, kaléidoscopique. Une société américaine parfois déboussolée et en souffrance, mais traversée par une énergie et un regard tourné vers l'avenir. Surtout, il était indéniable que Florence avait le goût des autres. Elle avait de l'empathie pour les sujets de ses articles, comme certains romanciers peuvent en éprouver pour leurs personnages. À la lecture de ses textes, j'essayais de deviner le lien qui l'unissait à Joyce. Comment les deux femmes s'étaient-elles connues ? Était-ce Florence qui avait contacté Joyce ou l'inverse ? Mon intuition me guidait vers la deuxième hypothèse. Après l'enlèvement de sa fille, voyant que les chances de la retrouver vivante s'amenuisaient, Joyce avait décidé de solliciter l'aide de la presse. Avec quelle idée précise derrière la tête ? Je l'ignorais encore, mais j'étais prêt à parier qu'elle s'était tout simplement tournée vers quelqu'un dont elle appréciait les articles. Nouvelle page web. J'avais gardé pour la fin ce qui m'avait pourtant immédiatement sauté aux yeux. La vérité la plus perturbante. La date de la mort de Florence, tellement rapprochée de celle de Joyce que j'avais du mal à croire que cela ait pu être un hasard. Je me mis en quête de renseignements plus détaillés, tout en redoutant ce que j'allais découvrir. À présent, il ne s'agissait plus seulement d'enquêter sur la disparition ou l'enlèvement de la femme que j'aimais. Il s'agissait peut-être de découvrir la vérité sur une série d'homicides restés impunis. Joyce, Florence, d'autres, pourquoi pas. Dans le tréfonds du web, je dénichais un article un peu plus exhaustif sur la mort de Florence Gallo. Une brève parue dans un journal local de Virginie, le Lafayette Tribune. Fait divers. Une jeune femme a été retrouvée morte hier matin, dimanche 26 juin, dans le secteur de Silver River Bridge Park, West Virginia. Selon la direction du parc, la victime, Mademoiselle Florence Gallo, une journaliste new-yorkaise, a vraisemblablement raté son saut de base jump, une pratique extrême du parachutisme qui consiste à sauter d'un point fixe et non d'un avion. L'alerte a été donnée par des randonneurs qui ont trouvé le corps de la sportive près des berges de la rivière. Florence Gallo connaissait bien la région et était une base jumpeuse aguerrie. Par le passé, elle avait déjà effectué plusieurs sauts depuis la structure en acier du pont, notamment lors des démonstrations de base jump organisées pendant les festivités du Bridge Day. Il s'agissait cette fois d'un saut sans témoin qui s'est déroulé en dehors des créneaux autorisés pour pratiquer cette activité. L'enquête a été confiée au bureau du shérif du comté de Fayette. La piste de l'accident est pour l'instant privilégiée. Selon les premières constatations, la voile du parachute de Mademoiselle Gallo ne s'est pas ouverte pour une raison qui reste à déterminer. Je regardais quelques photos du pont. Le Silver River Bridge était un spot célèbre dans le milieu des sports extrêmes. Située dans les Appalaches, l'impressionnante structure d'acier surplombait le cours d'eau de plus de 300 mètres. Le fait que l'on puisse s'y balancer en parachute me collait des frissons. Pendant longtemps, le pont avait été l'une des fiertés de la région, avant d'être fermé à la circulation au milieu des années 1990, après plusieurs alertes de sécurité. Malgré ça, il était toujours entretenu et restait ouvert aux promeneurs et aux visiteurs du Silver River Park. Depuis le tablier du pont, le base jump était autorisé, mais strictement encadré et avec des précautions drastiques que n'avait visiblement pas respecté Florence Gallo. Je cherchais dans les archives du journal pour savoir si l'enquête avait connu des suites, mais je ne trouvais rien. Nouvelle page du moteur de recherche. Direction le site web du Winterson. En remplissant un formulaire, il était possible d'envoyer un mail au rédacteur en chef Alan Bridges. Je n'en attendais rien de particulier, mais là encore, je tentais ma chance, sollicitant un rendez-vous pour évoquer les souvenirs qu'il gardait de Florence Gallo. Le message venait juste de partir lorsque mon portable sonna. Alexandre. Il était à présent 9h30 à New York, soit 15h30 en France. Salut Alex.
Salut cousin. Je profite de ma pause pour te rappeler.
C'est gentil. Les nouvelles sont bonnes ? Un soupir s'échappa à l'autre bout du fil.
Non, malheureusement. Il s'est passé ce qu'on craignait. À la fin de la nuit dernière, on a diagnostiqué un hématome à Clotilde Blondel.
Merde.
On l'a opéré en urgence. L'épanchement sanguin était profond et mal localisé. L'opération en elle-même ne s'est pas mal déroulée, mais ton amie était en détresse respiratoire. Pour l'instant, elle est toujours dans le coma.
Tu restes aux aguets ? Compte sur moi.
À peine venais-je de raccrocher que je découvris deux emails arrivés presque en même temps dans ma boîte aux lettres. Mei Soo-yoon et Alan Bridges semblaient s'être donné le mot. Contre toute attente, ils se tenaient à ma disposition et acceptaient de me recevoir quand je le souhaitais. Je calais avec eux les deux rendez-vous à la suite dans la journée, tout en m'interrogeant sur la rapidité et la sincérité de leurs réponses. A priori, aucun de ces deux personnages publics n'avait de raison véritable de m'aider. La seule explication était qu'ils cherchaient à savoir ce que moi, je connaissais de cette affaire. 9h30. Manifestement, mon fils avait terminé sa grasse matinée. De l'autre côté de la porte de séparation, j'entendais ses babillements avec bonheur et amusement. Théo s'essayait à une version yaourt assez convaincante de Get Back des Beatles, sa chanson préférée depuis 2 semaines. J'ouvris les deux battants pour lui voler quelques sourires pendant que j'appelais l'accueil et réservais une nounou. Décidément en grande forme, Théo enchaîna avec une reprise de son cru de Papa Outé. Dans la demi-heure qui suivit, je ne m'occupais que de lui. Bain, toilette complète au savon de Marseille, couche, body, habit propre qui sentait la lavande.
Picui, picui !
Aussitôt sur ses deux pieds, cet estomac sur pattes lorgnait déjà une boîte d'Oreo qu'il avait repérée dans une panière à côté du minibar.
Non, non, pas de biscuits maintenant, c'est l'heure de ton biberon.
Allez, Zou, on va le prendre en bas.
Allez, You !
Répéta-t-il. Je pris un sac avec toutes nos affaires et avant de fermer la porte, je repassai mentalement ma liste des choses à ne surtout pas oublier. Fifi, check. Biberon, check. Bavoir, check. Livre de Choupi, check. Petite voiture, check. Couche de rechange, check. Lingette, check. Mouchoir en papier, check. Crayon Crayola, check. Cahier de coloriage, check. Rassuré, je sortis dans le couloir. Nous venions juste de prendre l'ascenseur lorsque...
Papa, Chichin.
Flûte, j'avais encore oublié cette putain de tétine.
Tu pouvais pas le dire avant, non ?
Vexation, larmes de crocodile pour faire bonne figure, refus de mon côté de faire pénitence.
Allez, arrête ton cinéma, mauvais acteur.
Retour dans la chambre, 5 minutes pour trouver la tétine, sous le lit, recouverte de poussière. Lavage de tétine, alerte odeur suspecte, vérification, confirmation du carnage, profond soupir, nouveau changement de couche, faim qui monte, psychodrame, culpabilité, négociations en tout genre. Perte de temps phénoménale, ascenseur again, profiter du miroir pour se recoiffer, moi puis lui, un sourire et tout va bien, lui et moi. Il était 10 heures passées lorsque la cabine arriva dans le hall. Au même instant, de l'autre côté du vestibule, la lourde porte d'entrée de l'hôtel s'ouvrit sur une masse imposante. Le visage de Théo s'illumina.
« Mac, Mac !»
cria-t-il en pointant du doigt un client au milieu du lobby. Je me retournai et fronçai les sourcils. Je n'en croyais pas mes yeux, mais j'étais drôlement soulagé. Marc Karadec était venu me rejoindre à New York.
Il pleuvait des trombes. J'étais seul dans ma voiture au milieu des hautes herbes de ce chemin qui se refermait sur moi. Armé d'un fusil à pompe, une silhouette sombre a jailli du 4x4 devant moi et s'est avancée sous la pluie. Installés à une table dans le patio de l'hôtel, Karadek et moi discutions depuis une demi-heure. Nous avions échangé toutes nos informations. Une fois encore, elle se recoupait et s'enrichissait de façon inattendue, apportant sur le passé de Claire et de sa mère des éclairages complémentaires de plus en plus dramatiques.
« L'homme a braqué son arme sur moi », continua Marc. « Dans la lueur des phares, j'ai vu distinctement à quoi il ressemblait. Un physique atypique, une carcasse ramassée et trapue, des cheveux longs couleur rouille et une barbe épaisse. Il était à 3 mètres de moi, le doigt sur la détente. »
Alors que j'étais suspendu à ses lèvres, Karadek s'arrêta pour essuyer la bouche de Théo. Dans sa chaise haute, mon fils donnait l'impression de suivre attentivement notre conversation en dévorant une tartine de ricotta.
« Il a tiré et mon pare-brise a explosé »,
poursuivit Marc.
« J'ai senti le souffle de la balle à quelques millimètres de ma tempe. »
« Et ensuite ?» Rancogné sur mon siège, j'étais abasourdi par les proportions que prenait notre enquête. Karadek haussa les épaules en avalant une gorgée de son cappuccino.
« Qu'est-ce que tu crois ? Je l'ai pas laissé tirer une seconde fois. La peur m'avait fait plonger sous le volant. Avec le choc, la boîte à gants s'était ouverte et mon calibre avait glissé sur le plancher. Je m'en suis saisi. Et j'ai fait feu. C'était lui ou moi. Et cette fois, la chance était de mon côté. »
Alors que des frissons m'électrisaient les chines, Marc ne donnait pas l'impression d'être affecté outre mesure par son aventure. Cependant, je le connaissais suffisamment pour savoir que derrière sa posture de marbre se cachait un homme sensible et tourmenté qui avait conscience de la fragilité de l'existence.
« Tchoupi, tchoupi !»
Le visage plein de ricotta, Théo réclamait son exemplaire de « Tchoupi fait des bêtises ». Je cherchais dans le sac et lui tendis le livre. Ce que Karadek m'avoua ensuite me laissa pantois.
Ce type m'était pas inconnu,
poursuivit-il.
C'était un flic. Je l'ai déjà croisé il y a longtemps. À l'époque, il travaillait à la brigade des mineurs, où tout le monde le surnommait le bûcheron. Mais son véritable nom, c'était Stéphane Lacoste.
Ma gorge se noua. Je n'arrivais pas à croire que Karadek avait tué un homme. J'étais abasourdi et horrifié par ce que j'avais déclenché. Et dire que tout ça avait commencé par une simple dispute. Une dispute que j'avais provoquée, seulement parce que j'étais jaloux, seulement parce que j'étais suspicieux par rapport au passé de la femme que j'allais épouser. Marc me ramena à la réalité.
J'ai fouillé la voiture et le bonhomme, mais j'ai rien trouvé. Aucune trace de Claire, aucun indice. Lacoste devait se méfier car il n'avait même pas de portable.
Putain, les flics vont remonter jusqu'à toi, Marc!
Il secoua la tête. Non, je pense pas. D'abord, ils récupéreront pas la balle que j'ai tirée. Surtout, j'ai installé le cadavre de Lacoste sur le siège conducteur et j'ai fait un joli barbecue avec la voiture. Cette caisse est volée, j'en suis certain. Et tout ce qu'on retrouvera de Stéphane Lacoste sera une carcasse carbonisée. Avant de l'identifier, il faudra obtenir un relevé dentaire. Ça prendra un temps fou.
Et la tienne, de voiture ?
T'as raison, c'est le point le plus délicat. Je pouvais pas rouler longtemps avec mon pare-brise éclaté. J'ai parcouru prudemment 10 kilomètres jusqu'à Châlons-en-Champagne. Là, j'ai piqué une bagnole, à l'ancienne, en frottant les câbles. C'était une ruine. Tu me diras, une Super 5 de 1994. Tu savais qu'il en roulait encore ? Elle doit être cotée à 200 euros à l'Argus.
Mais on va retrouver ton Range Rover !
T'inquiète pas, j'ai demandé à un copain garagiste de venir le récupérer. À l'heure qu'il est, mon vieux taco se refait une beauté à Paris.
Je fermais les yeux pour me concentrer. Il fallait que je parvienne à reconnecter certains fils. Ce policier, Stéphane Lacoste, à ton avis, comment est-il lié à la disparition de Claire ?
Marc sortit son carnet de sa poche et le feuilleta. Ça, je t'avoue que j'en sais rien. À l'aéroport, j'ai passé plusieurs coups de fil pour y voir plus clair sur le parcours de Lacoste. Il a fait ses premières armes à la BRI d'Orléans, avant de passer par la BPM et la PJ de Versailles. On le retrouve toujours dans le sillage d'un autre flic, le capitaine Richard Angeli. D'après un de mes anciens collègues, Angeli a essayé d'emmener Lacoste avec lui à la BRI du 36, mais l'autre a échoué aux épreuves d'entrée.
Je m'agitais dans mon fauteuil. Attends, je connais ce nom. Richard Angeli, je l'ai entendu très récemment. Je fouillais dans ma mémoire, mais mon cerveau moulina à vide.
À quelle occasion ?
Je sais plus, justement. Ça va me revenir. Toi, ça te dit rien ?
Non, je l'ai jamais croisé. Mais d'après ce que j'ai compris, le type a connu une carrière éclair. À peine 40 ans et des états de service élogieux. Ça doit être un bon flic. On ne devient pas capitaine à l'anti-gang par hasard. surtout à son...
D'un bond, je me levai de ma chaise et, sur le coup de l'excitation, arrachai son livre des mains de mon fils. Surpris, Théo éclata en sanglots et trouva refuge dans les bras de Marc. Fébrile, je tournai les pages jusqu'à retrouver les notes que j'y avais griffonnées dans le taxi sur la route de l'aéroport.
« Je sais qui est Richard Angeli, » dis-je en montrant le livre à Karadec. C'était le petit ami de Marlène Delatour, le jeune flic de la brigade criminelle de Bordeaux qui avait travaillé sur l'affaire Carlyle en 2005.
Karadec encaissa l'information, puis émit une hypothèse.
« Et si c'était lui ?»«
Lui ?»
Le détective qu'avait engagé Joyce en secret. Quoi de mieux qu'un flic français qui travaille sur l'affaire pour avoir accès à toutes les informations et mener des investigations complémentaires ?
Le scénario n'était pas absurde. J'essayais d'imaginer Joyce recrutant dans le plus grand secret ce jeune flic prometteur. Mais grâce à quel intermédiaire ? Et alors que l'enquête n'avait rien donné à l'époque, pourquoi retrouvait-on aujourd'hui l'ombre d'Angeli et de son lieutenant, Stéphane Lacoste ?
Hello, Théo. How are you, adorable young boy ?
Je levai la tête. Marieke, la babysitter de mon fils, venait de débarquer dans le patio. Toujours aussi apprêtée, elle était vêtue d'une robe moulante, en wax et en dentelle, qui pouvait laisser penser qu'en cette période de Fashion Week, elle venait précipitamment de quitter un podium de défilé de mode. Théo n'avait pas été long à retrouver sa bonne humeur. Un sourire coquin aux lèvres, il faisait le joli cœur devant la belle Allemande. Je regardai ma montre et me levai. Il était temps de me rendre à mon rendez-vous avec Alan Bridges.